Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com.
Aube, épisode 16.
Nos communautés sont bâties pour durer.
Enfin, une chose qui n'est pas victime de l'obsolescence programmée.
Non, une communauté, ce n'est pas du prêt à jeter. Ça se transmet de génération en génération, des plus vieux vers les plus jeunes.
Dans nos communautés, ce sont souvent aux aînés à qui on demande conseil. Leur expérience passée éclaire nos prises de décision.
Lorsqu'ils partent, on leur rend hommage pour ce qu'ils ont apporté au groupe. Parfois, on dépose une pierre pour se les rappeler.
Même après leur mort, les anciens continuent à nous guider.
Dans ce 16e épisode, Hope s'est penché sur la vieillesse, la contribution de nos aînés, sur le cycle de la vie et surtout de la mort. Au sommaire,
la vieillesse réinventée,
les enseignements de la maladie,
la perte d'un être cher,
l'importance de la transmission du savoir.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé, ancêtre.
Man, je suis tellement mort. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris le temps de prendre le temps. C'est ça que je me disais ce matin-là en snoozant mon cadran. Sans réaliser l'ironie. Je check mon cell. C'est les funérailles. J'apprends ça là. Personne s'y attendait, c'est un accident. Bike versus car, ça a l'air. Personne s'y attendait. C'est un accident. J'apprends ça là. Tu sais, tu penses que la vie, c'est... Tu nais, t'as 20 ans, puis tu restes jeune pour toujours jusqu'à ce que tu meurs dans ton sommeil avec le sourire après une vie qui t'a semblé une éternité. Tu penses que c'est pour tout le temps. Puis pow! C'était juste un moment. Je suis descendu avec Oli dans un char loué. On savait pas quoi dire. On écoutait Biggie Life After sur repeat. Un artiste mort il y a 20 ans, mais ses paroles résonnaient là. J'ai toujours écouté beaucoup d'artistes morts. Kurt Cobain, John Lennon, Bob Marley, Dédé Fortin. Leur musique était là quand j'ai eu besoin. Jusqu'à hier, c'était la belle Amy. Là, c'est Eazy-E, ODB, Tupac puis B.I.G. Les éléphants retournent toujours au même endroit pour enterrer leurs morts. On était sur le parvis de l'église où on chillait tout le temps. Ils ont lu un truc qu'ils avaient écrit. Ils étaient pas là pour le dire, mais c'était exactement ce que j'avais besoin qu'ils disent à ce moment-là. Tout le monde a quelque chose de lui qui est encore là. Quelque chose qui leur a appris. Un moment où il les a aidés, un souvenir. Ces trucs-là, je vais les garder avec moi toute ma vie. Sûrement les passer à mes enfants, puis j'espère eux à leurs enfants. Ce gars-là, c'était comme mon petit frère. Puis là, avec ses grandes paroles de sagesse, il devenait mon aîné. Un ancêtre qui est passé par là avant nous. Il avait toujours eu mon bac. Je savais que je pouvais compter sur lui. Il était toujours derrière moi. Puis là, il était en avant. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Entre-temps, c'est fou ce que tu vas laisser derrière. Thank you.
Vous n'êtes pas simplement un nom et un prénom doté d'une histoire sociale. Voici votre véritable composition. Vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium, 2% de phosphore, 1% de potassium, 0,5% de soufre, 0,5% de sodium, 0,4% de chlore. Plus une bonne cuillerée à soupe d'oligo-éléments divers, magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluor, silicium. Plus encore une petite pincée de cobalt, aluminium, molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore, voilà la recette de votre existence. Tous ces matériaux proviennent de la combustion des étoiles et on peut les trouver ailleurs que dans votre corps. Votre eau est similaire à celle du plus anodin des océans. Votre phosphore vous rend solidaire des allumettes. Votre chlore est identique à celui qui sert à désinfecter les piscines, mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes une cathédrale chimique. Un faramineux jeu de construction avec ses dosages, ses équilibres, ses mécanismes d'une complexité à peine concevable. Car vos molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes, de particules, de quarks, de vides, le tout lié par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, électroniques, d'une subtilité qui vous dépasse. Rien de ce qui vous entoure dans le temps et dans l'espace n'est inutile. Vous n'êtes pas inutile. Votre vie éphémère a un sens. Elle ne vous conduit pas à une impasse. Tout a un sens. Agissez. Faites quelque chose de minuscule peut-être, mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Découvrez ce pourquoi vous êtes né. Quelle est votre infime mission? Vous n'êtes pas né par hasard.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux.
Le point de départ de cette chronique, c'est ma propre peur de vieillir. Et parce que c'était anxiogène, j'ai donc décidé d'y aller franco et de creuser les alternatives possibles. Parce qu'un jour, aussi beau et jeune que l'on soit, eh bien, on va vieillir. C'est une lapalissade de le dire, cependant, c'est bon de le rappeler. Nous serons, nous aussi, un jour, des vieux. De plus, le rallongement de la vie ne s'accompagne pas forcément d'une meilleure qualité de vie. Quant aux structures institutionnelles et familiales, elles semblent peu à même de promettre l'épanouissement de ces anciens jeunes. Selon un sondage datant de juin 2011 de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, 63% des Québécois ne voient pas d'un œil positif le fait de vivre en résidence pour aînés. Quant aux récentes coupures au niveau du système de santé et de certains articles parus dans différents journaux sur les CHSLD, le pessimisme quant à nos vieux jours nous guette. Cependant, cette situation permet aussi un questionnement et même parfois une anticipation. Non pas dans le sens de préparer ses obsèques, comme dans certaines publicités dirigées spécifiquement pour les vieux, mais plutôt sur une autre manière de vivre sa vieillesse. Car oui, les vieux sont dynamiques, continuent d'apprendre, voyagent, consomment et s'entraident. Il existe des vieillesses, et là aussi, il est possible de l'envisager autrement qu'en CHSLD, avec une retraite réduite à peau de chagrin.
La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme.
Youth de Samuel Ullman. Ma grand-mère, véritable clown qui ne l'a pourtant pas eu toujours facile dans sa vie, me disait l'autre fois, je cite, « La vieillesse, c'est pas rigolo ». Alors je lui ai envoyé un lien internet, et oui, les vieux tripent aussi sur internet, le lien du blog d'un New-Yorkais qui arpente les rues de sa ville et prend en photo toutes les femmes âgées entre 75 ans et 80 ans au look excentrique. Mais alors vraiment excentrique. Des couleurs, des plumes, des énormes bijoux, des lunettes bigarrées et une attitude de fausse innocence qui leur fait oublier les limites imposées à leur âge. De ces super mamies, on en a tiré d'ailleurs un documentaire intitulé « Fabulous Fashionistas » diffusé sur Channel 4 au Royaume-Uni. L'une d'elles déclare d'ailleurs dans le film « Oui, on pense à la mort, mais on choisit la vie ». Les mannequins âgés apparaissent timidement sur les podiums aujourd'hui, les chevelures grises s'affranchissent glorieusement des teintures et les tableaux Pinterest ne se lassent pas de retracer les visages lumineux de ces personnes qui vieillissent avec style. La vieillesse n'est pas synonyme de fin. La vieillesse s'étire et devient une autre étape de la vie, la sagesse en plus. Louis Berreur, directeur associé à la recherche clinique à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et chercheur à l'UQAM, indique qu'il est possible de lutter contre le ralentissement des facultés intellectuelles et même d'améliorer ses performances. Pour y parvenir, pas de pilule miracle. Le chercheur résume le secret d'une vieillesse en douceur grâce aux bienfaits de l'exercice sur la cognition de la manière suivante. Je cite
« Quatre approches ont prouvé leur efficacité. L'activité physique, la stimulation cognitive, les interactions sociales et, de façon moins certaine, une bonne alimentation. »
Fin de citation. Le médicament est en général la solution miracle aux multiples maux, alors que beaucoup de problèmes pourraient d'abord être réglés par l'alimentation, de l'effort physique et de la stimulation intellectuelle. D'ailleurs, l'Université du Troisième Âge existe à Montréal et accueille pour de nombreux programmes des personnes jeunes de cœur et d'esprit qui souhaitent rafraîchir ou enrichir leurs connaissances. Côté habitat, de plus en plus de baby-boomers et même de trentenaires se posent la question de leur vieillesse. Quel revenu mensuel? Quel habitat? Quel lien social on aura? Le maintien à domicile et l'accueil de papiers à la maison permet le croisement des générations, de garder les enfants et une entraide multigénérationnelle. L'absence d'effet miroir évite de trop penser à sa propre dégradation. Le cas des maladies dégénératives est bien sûr un cas à part. Le maintien à domicile d'une personne atteinte d'Alzheimer ou de Parkinson devenant souvent trop lourd, le recours au personnel qualifié dans des structures sécuritaires devient alors malheureusement une nécessité. C'est encore le lien social qui est au cœur de la réflexion sur les coopératives d'habitation spécifiques construites ou bien par des tiers ou par le futur vieux lui-même. Les coopératives d'habitation se développent, offrant une autre manière de vivre ensemble. Ainsi, la seigneurie à Boucherville est une coopérative d'usufruitier. C'est-à-dire, les membres sont collectivement propriétaires des immeubles de la coopérative tout en étant individuellement locataires de leur logement. Dans cette nouvelle formule, donc, les membres résidents sont propriétaires de leur logement tout en respectant les principes et les modes de fonctionnement coopératifs. En France, à Paris, la Maison des Baba Yaga est aussi un modèle original de studio pour 25 personnes âgées. Entre la solitude à domicile à tout prix et le placement en catastrophe en maison de retraite pour cause de handicap ou d'accident médical, les trois initiatrices du projet de la Maison des Baba Yaga ont estimé qu'il y avait de la place pour une alternative plus séduisante. La maison, en plus d'héberger donc des femmes du troisième âge, héberge également une université pour les vieux et organise des activités ouvertes à tous dans les lieux communs. Un autre modèle intéressant est celui de ces quatre couples d'amis qui ont construit aussi un mini-village de tiny house juste pour eux, avec des petits logements de 35 mètres carrés et un espace central juste pour eux. Le projet s'appelle Yano Exit Strategy et se situe au Texas. Leur but, vieillir ensemble. L'alternative est encore et toujours une manière de construire ses propres règles. À l'heure où nos facultés décroissent, une autre manière de vivre s'ouvre à nous. Une autre forme de créativité. La vieillesse n'est pas la fin, non. Lorsqu'elle n'est pas encore survenue, on peut l'anticiper au travers de projets fédérateurs. Et lorsqu'elle est là, elle est un nouveau mode de vie.
Pour vieillir sans déchoir, ne jamais oublier ce que j'aurais senti dans l'âge où le cœur vibre. Le beau, l'honneur, le droit qui ne s'est pas plié. Et jusqu'au tombeau, penser en homme libre. Puissais-je ainsi m'asseoir au fait de mes jours et contempler la vie, exempte en fin d'épreuve, comme du haut des monts où voient les grands détours et les plis tourmentés des routes et des fleuves.
René-François Sully Prudhomme.
Texte et narration d'Aurélie Subercicot.
Home from work, our Juliet clears her morning meal. She dabs her skin with pretty smells concealing to appear. I will make my bed, she said, the time to go. Can she be late for her cinema show?
dans le bloc à côté de chez nous. Établissement plutôt étrange, habité par une gang de fous. Moitié démon et moitié ange, vivait une vieille dame toute tranquille dans son mini appartement, en plein milieu du centre-ville et de ses nombreux habitants. Cette vieille n'avait qu'un seul ami, domestiqué par habitude, une espèce de gros chat tout gris, compagnon de sa solitude, qu'elle traitait avec plein d'amour, lui offrant la crème de ses restes, le partage de ses derniers jours et ses économies de gestes. On a tout un petit minou d'amour qui nous passe entre les deux jambes. Un petit minou qui dort le jour, qui passe avec le temps qui personne vraiment dans le quartier. Elle ne connaissait la vieille au chat gris. À peine la voyait-on passer à petits pas vers l'épicerie, ou quand elle s'étirait le cou par la porte de son balcon, en appelant son vieux matou pour qu'il revienne à la maison. Un soir d'hiver, un soir très doux, où il neigeait à gros flocons, j'ai vu le chat devant chez nous se faire écraser par un camion. Cri de douleur pendant la lune, la vieille sortie de sa maison, de la voir dans la neige brune. J'avais la gorge pleine de mottes. On a tout un petit minou d'amour qui nous passe entre les deux jambes. Qui dort le jour, qui passe avec le temps qui court. Alors saisissant dans ses bras, telle la vie que la mort emporte, la forme inerte de son chat, elle tituba jusqu'à sa porte, laissant pleurer des gouttes de sang. Enchapelée sur la neige blanche, elle gagna son appartement, s'enfermer dans son avalanche. La suite de ce fait divers se laisse facilement deviner, mais ce n'était pas que la petite affaire quand la police les a trouvés. Deux semaines plus tard, à cause de l'odeur, dans une morbide position, la vieille qui serrait sur son cœur son chat en décomposition.
Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la préservation du corps assurait la vie éternelle de l'au-delà. Voilà pourquoi ils embaumaient leurs morts.
Il y a une multitude de croyances par rapport à la mort.
Même en consultant nos aînés, impossible de savoir qui détient la vérité.
C'est peut-être la seule chose pour laquelle ils ne peuvent pas nous partager leur expérience.
Alors, j'ai écrit ce petit texte quand j'étais très malade. Ça m'est arrivé aussi, même si je suis herboriste. Mais c'était une occasion d'apprendre, de changer ma perspective sur ma vie. Alors, j'ai écrit ça dans cet esprit, les enseignements de la maladie. La maladie m'a appris que j'existe par moi-même et pas seulement parce que les autres en ont dit. La maladie m'a appris qu'il fallait que j'apprenne à lâcher prise et à laisser se faire les choses d'elles-mêmes. La maladie m'a appris que je ne contrôle pas grand-chose, surtout pas l'essentiel de ce qui dirige ma vie. La maladie m'a appris que la vie est un cadeau et que l'amour comme la santé n'ont pas de prix. La maladie m'a appris qu'il fallait que j'aime l'autre, le plus proche bien sûr, et surtout moi-même qui suis ma meilleure amie. La maladie m'a appris que la vie est belle pour celle ou celui qui sait lui ouvrir tout grand les bras. La maladie m'a appris que j'ai un bon corps, encore solide, mais qu'il a ses limites qu'il est risqué de dépasser. La maladie m'a appris qu'il faut savoir ralentir à temps avant de croiser trop tôt Madame la Mort. La maladie m'a appris qu'il est bon de vieillir pour apprendre à réfléchir avant d'agir et voir l'essentiel arriver lentement, de plus près. La maladie m'a appris qu'il est chouette de redevenir une petite fille pour faire de douces folies et s'offrir de grands rires sonores. La maladie m'a appris que c'est dur d'être une adulte, mais vital de se donner des répits, de décrocher, de rêver souvent, de rêver grand. La maladie m'a appris qu'on peut faire les choses tout à fait autrement, sans contrainte, sans pression, et avec bien moins de tension. La maladie m'a appris que je suis importante et irremplaçable pour ceux qui m'aiment vraiment, et surtout pour moi-même, c'est formidable. Merci, chère maladie, tu m'as beaucoup appris.
C'était un texte de Annie Schneider, du nom de « Les enseignements de la maladie ».
Avec une sorte de retard sur les Orientaux, mais aussi munis d'un outillage d'introspection de plus en plus raffiné, les Occidentaux découvrent qu'il est essentiel d'honorer les ancêtres, car ils font partie de nous. Les honorer, cela peut signifier les connaître, les analyser, les démonter, les accuser, les dissoudre, les remercier, les aimer, pour finalement voir le Bouddha en chacun d'eux. Celui qui utilise cette formule est un outsider.
Bien avant que la thérapie transgénérationnelle ne devienne à la mode, le dramaturge et metteur en scène Alessandro Jodorowsky avait placé l'arbre généalogique au centre de sa vision du monde.
On sait que cet ancien agitateur culturel s'est depuis longtemps mué en sage qui aide les gens à trouver leur chemin dans le chaos spirituel moderne grâce en particulier au tarot. Voilà 35 ans qu'il reçoit chaque semaine, le mercredi, des gens venus de toute l'Europe dans un bistrot transformé en cabaret mystique où, de façon rigoureusement bénévole, il tire les cartes à une vingtaine de personnes, tandis que, tout autour, une foule de plusieurs centaines de quêteurs de sens se presse pour entendre ce que dit l'artiste. Parfois à voix basse, quand, ayant avec beaucoup de compassion, interpellé et écouté son patient, puis attentivement étudié son arbre généalogique, il lui prescrit l'acte psychomagique destiné à ritualiser sa guérison.
D'autres soins, c'est différent. Ni bousculade, ni cabaret. Alessandro Jodorowsky transmet son art à d'autres thérapeutes, en recevant chez lui à raison d'une seule personne en consultation.
Mais les ingrédients sont les mêmes. Interpellation compassionnelle, écoute, interprétation des signes symboliques, psychomagie, et toujours au centre de tout cela, l'étude attentive de l'arbre de la personne concernée. Avant tout artiste, scénariste, homme de théâtre, Alessandro Jodorowsky ne se doute pas de ce qu'il va déclencher en mettant en scène des arbres généalogiques vivants. Ses intuitions fulgurantes le conduisent en partie aux mêmes conclusions que les psychanalystes, mais avec une dimension spirituelle en plus. Vouloir se libérer de ses ancêtres lui paraît illusoire et pathogène. En revanche, chacun peut corriger le tir ancestral, souvent très tordu, mais jamais avec ressentiment. Nourri de la sagesse kabbalistique qui passe à travers le tarot, il invite ses congénères à se lancer dans une entreprise fantastique, la réparation de leurs arbres.
Nous pouvons, montre-t-il, soigner nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, depuis longtemps morts, combler les manques de leur inaccomplissement. Il dit même, nous pouvons réveiller en eux le Bouddha.
Un texte du nom de Ancêtre, tiré du livre Le jeu du tarot.
À 15 ans, Grignotte, de son surnom, n'était pas tellement porté sur l'école. Ça ne voulait pas dire qu'il détestait apprendre, mais entre l'école et l'atelier de son grand-père, Grignotte n'avait aucune hésitation. Il aimait mieux apprendre avec son grand-père. Le grand-père de Grignotte n'était pas un prof, mais il aimait son métier d'ébéniste, comme un prof aime le sien. Il aimait voir ses petits-fils apprendre, comme un prof aime voir ses élèves apprendre. Il se sentait bien dans son atelier quand ses petits-fils venaient travailler avec lui.
De plus, il aimait beaucoup chantonner en travaillant et il avait un faible pour Gilles Vigneault. Un beau jour, Grignotte fit irruption dans la boutique de son grand-père. Le vieil homme tournait alors une patte de table. Vous savez, c'est une vraie merveille de voir un ébéniste travailler sur un tour à bois. La pièce de bois brute et informe se met à tourner de plus en plus vite, et quand l'artisan sort le ciseau à bois, des milliers de petites éclisses entrent dans une folle danse. Grignotte était béat d'admiration. Quand le tour s'arrêta quelques minutes plus tard, la pièce de bois rude s'était métamorphosée en une jolie patte de table, bien polie, bien galbée, de toute beauté.
C'est bien beau, grand-papa, j'aimerais ça essayer. Est-ce que c'est possible?
Mais bien sûr, mon homme. Je vais te donner quelques conseils de sécurité, et puis après, tu pourras essayer.
Et voilà notre Grignotte au travail. Maladroit, le jeune garçon fit une fausse manœuvre dès le départ, si bien que la patte casse immédiatement. Imaginez la déception. Il avait encore échoué. Mais le grand-père, qui avait supervisé la manœuvre, avait détecté la maladresse. Quelques ajustements, quelques encouragements, une nouvelle pièce de bois, et revoilà notre ébéniste en herbe au travail. Quand le tour s'immobilisa, on était à des kilomètres de la patte de table de l'ancêtre, bien sûr, mais c'était beaucoup mieux que la première fois. Et c'est là-dessus que le grand-père insista pour que Grignotte retourne au tour. L'homme d'expérience sait, lui, que son jeune protégé était sur le point de réussir. Il lui donna donc une pièce de bois digne de l'événement. De nouveau, le tour s'activa dans un tourbillon d'éclisses qui papillonnèrent dans toutes les directions. Quand Grignotte poussa l'interrupteur, il lui sembla que la pièce de bois ne s'immobiliserait jamais. Les yeux de Grignotte étaient rivés sur le tour, ceux du grand-père étaient figés sur ceux de Grignotte. La patte était parfaite. Un chef-d'œuvre. Le grand-père était si fier qu'il entonna d'une voix forte sa chanson favorite. Il la transformait selon les circonstances.
Mon cher Grignotte, c'est à mon tour de dire bravo pour ton succès.
Mais Grignotte, lui, était bien triste.
Tu vois, grand-papa, j'ai encore échoué aujourd'hui. La première patte, ça a été un gros zéro. La deuxième, ça valait à peine 40%. Alors même si tu me donnes 100% pour celle-ci, ça me donnera que 47% de moyenne.
Mais voyons, Grignotte, tu vois bien que maintenant, tu es capable de travailler sur un tour à bois.
Tu comprends pas, grand-papa. Tu n'es pas allé à l'école assez longtemps.
En regardant Grignotte, qui était tristement l'atelier, le vieil homme, la larme à l'œil, essaya de comprendre quel diable avait bien pu convaincre Grignotte de son échec.
Un texte de Michel Dufour tiré de Allégorie, Croissance et Harmonie. Une adaptation de Solène Marchand.
Je suis grave quand j'y pense. La mort nous emplit tous de son chagrin impossible. Elle est la seule force capable d'étreindre l'homme, le suivre en secret, le chasser et toujours sans faute, attraper son cœur chaud et y retirer le battement ultime. Notre ombre est la mort, discrète et insolente, toujours présente dans les traits de lumière qu'offre la vie. Le revers d'une médaille calcinée sous les imperturbables remous de ce qui souffle et inspire. J'ai peur de la mort comme nous tous, oui. Qui n'a pas peur de la mort, craint autre chose de bien plus profond et il vaut mieux éviter de lui en demander la nature. Il est sain de chercher à tout prix à se maintenir loin de dames faucheuses et de ses oripeaux. Mais la peur n'est point la crainte. Je ne crains pas la mort et l'attendrai de pied ferme le jour où elle me choisira. J'en ai peur, cependant, comme l'on a peur d'une porte ouvrant sur le néant. La mort est ainsi l'opercule vers la fin de tout ce que nous connaissons. Avons-nous donc plutôt peur de l'inconnu ? La mort, comparée à son après, n'est qu'une vieille amie, contrepoint de la vie et finale grandiose pour tout être de bien. Loin d'elle, nous avons ce sombre inconnu conceptuel. La religion tente d'en donner des images, la philosophie des règles et la science des axiomes. Chacun sait que l'illusion est prête lorsque la peur pointera le bout de son nez. Réincarnation, paradis ou géhenne, totalité absorbante, tant de symboles incomplets et pourtant familiers, qui nous donnent l'illusion de marcher quelque part alors que le vide nous étreint. Après la mort, rien ? Un rien complet au-delà du rien. Un rien parce que l'esprit ne peut le concevoir et doit cependant lui trouver un nom. Un nom pour le maîtriser et le vaincre. Au-delà de la mort, il y a donc l'inconnu invaincu par l'homme et son esprit. Et la mort en bergère devient une frontière douce, qui sépare notre monde d'une prairie sans concept, sans idée, sans nous.
Mon fils, viens avec moi.
Mais... pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
Luc, tel est ton destin.
Obi-Wan
t'a bien formé. Tu sais contrôler ta peur. Maintenant, libère ta colère. Seule ta haine peut me détruire. Ton destin est lié au mien, Skywalker. Obi-Wan le savait. La force est avec toi, jeune Skywalker. Mais tu n'es pas encore un Jedi.
Nos vaisseaux ont repéré le Faucon Millenium, Seigneur. Mais il est entré dans un champ d'astéroïdes et nous ne pouvons pas
réussir. L'histoire d'astéroïdes ne m'intéresse pas, Général. Je veux ce vaisseau, pas des excuses.
Oui, c'est.
Fatigué de vous faire barouetter par le destin, vous voulez reprendre en main votre légende personnelle? Composez sans frais le 1-800-COMPRENDRE-LE-GRAND-ESPRIT.COM. Les 100 premiers appels se mériteront la chance de... Fatigué de vous faire barouetter par le destin, vous voulez reprendre en main votre légende personnelle, composée sans frais de... T'as toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt, en début d'émission, nous avons entendu
un reportage de Aurélie sur la vieillesse réinventée,
Plume la traverse avec la pièce Fait d'hiver,
l'histoire de Grignotte
et les enseignements de la maladie de Annie Schneider.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie,
un reportage de Philippe Laramé et Marie-Claude sur la maison Aurore,
hommage à une poète disparue.
Et pour commencer, voici les nouvelles du front. Pour assurer de transmettre notre savoir et notre expérience de génération en génération au fil d'un grand parcours de l'humanité, nous avons tenté d'en faire le plus possible pour nos citoyens les plus âgés. Alors que la population des sociétés occidentales vieillit et que l'austérité nous force à redoubler d'inventivité pour préserver notre tissu social, quel rôle pour nos aînés au 21e siècle? Ici Guillaume Lambe et voici les nouvelles du front. Même si l'institution peut paraître comme un vestige de nos sociétés passées, les défis auxquels font face nos anciens militaires sont bien réels. C'est pourquoi des citoyens de la région de Sherbrooke ont choisi de se regrouper pour soutenir et accompagner ceux et celles qui réintègrent la vie civile. Lors de l'annonce de la création de cet organisme, des ex-militaires participants ont tenu une grande corvée pour plusieurs vétérans. Dans nos sociétés, on demande parfois à certains de faire des sacrifices pour le bien commun. Certains vont jusqu'à sacrifier leur santé physique ou mentale, et même jusqu'à leur vie. Ces citoyens de la région de Sherbrooke nous rappellent que, lorsqu'ils rentrent des champs de bataille, il revient à la communauté de prendre soin de nos vétérans. Quant à nos aînés, eh bien ce n'est pas parce qu'ils quittent le marché du travail qu'ils abdiquent leurs responsabilités sociales. En fait, leur implication quotidienne dans notre communauté nous rappelle qu'on a bien souvent besoin d'un plus vieux que soi. Selon le rapport Le bénévolat et les aînés, à eux seuls, les aînés de 65 ans et plus ont accumulé 372 millions d'heures de bénévolat seulement en 2010. La tendance au vieillissement de la population soulève inévitablement la question du rôle des personnes âgées dans la société. Toujours selon le rapport, outre leur contribution inestimable à leur collectivité, le fait d'agir comme bénévoles et de mettre à profit leur expérience améliore aussi grandement la santé et le bien-être des aînés. Les bénévoles sondés par le rapport affirment d'ailleurs que les raisons qui les poussent à s'impliquer sont entre autres d'aider les autres et d'améliorer leur collectivité, d'être avec des gens agréables, de partager des idées avec d'autres personnes, et parce qu'ils le perçoivent comme un devoir citoyen. Bien entendu, quand le corps vieillit, certains ont aussi besoin de l'aide de leurs concitoyens un peu plus jeunes. Statistique Canada rappelle tout de même qu'entre 30 et 50 de ceux qu'on appelle les proches aidants sont âgés de 55 ans et plus. Malgré le rapport qui n'est pas toujours bien reconnu, ceux et celles qui soutiennent nos aînés dans leur vieillissement jouent un rôle essentiel dans les dernières étapes de la vie de ceux qui ont déjà donné beaucoup. Dans ce qui a été qualifié d'un vote historique, les parlementaires québécois ont récemment adopté le projet de loi 52 qui encadre les soins en fin de vie. Mieux connu sous le nom de « Mourir dans la dignité », cette loi offre la possibilité aux personnes en fin de vie d'être accompagnées dans leur mort par un professionnel de la santé afin de diminuer les souffrances. Fondée en 1985, la maison Michel Sarrazin, quant à elle, soulage et accompagne les personnes atteintes de cancer dans les dernières étapes de leur vie. La maison Michel Sarrazin opère une maison de fin de vie, un centre de jour et offre aussi des services de soutien aux proches. Tous ces services sont offerts gratuitement, car comme bien d'autres organisations, le bon fonctionnement de la maison Michel Sarrazin, vous l'aurez compris, repose sur la contribution de bénévoles, dont une grande proportion sont des aînés. Des travaux d'archéologie démontrent que depuis toujours, nos communautés ont cherché à prendre soin de leurs aînés vieillissants. C'est peut-être parce que nous comprenons instinctivement que leur expérience et leur capacité à nous transmettre le savoir et les traditions ont une valeur inégalable. Dans cette grande course à relais qu'est la vie, les expériences de chacun s'additionnent et il revient à tous de faire le maximum et de prendre le témoin quand il lui revient. Pour Aube, c'était Guillaume Lambe avec les Nouvelles du Front.
Parfois, on a beau passer par le même sentier, on finit par ne plus voir l'essentiel qui se cache sous nos yeux. Depuis 1976 que la maison Aurore est installée au sein même du plateau Mont-Royal et pourvoit ses attentions aux habitants de mon quartier. Aube fut invitée à la fête de la rentrée qui avait lieu le 10 septembre dernier.
Notre volet aîné, il est très important, c'est vrai, mais on essaie le plus possible d'organiser des activités intergénérationnelles. C'est que les aînés puissent apprendre des choses aux adolescents, que les adolescents, à leur tour, puissent leur apprendre des choses. Donc, c'est-à-dire que l'informatique, la façon dont ça fonctionne, c'est un aîné et un jeune qui sont ensemble, qui vont regarder qu'est-ce que l'aîné veut apprendre. Est-ce que c'est utiliser Facebook? Est-ce que c'est faire une recherche sur Wikipédia et tout ça? Et puis, dans d'autres moments, il va y avoir soit des séances où les jeunes vont apprendre à tricoter, ils vont apprendre c'est quoi l'histoire de la tire Sainte-Catherine et à en faire. Donc, ça crée toujours des beaux moments. Il y a des pique-niques pétants qui s'organisent, ils vont aussi là. Donc, je pense que on essaie le plus possible de créer des liens entre les générations, entre les gens, de différents milieux.
Mais je suis ici depuis longtemps, moi. Là. Oui, je suis quasiment aussi vieux que les meubles. je suis arrivé ici dès le début des années 80. Okay. Alors, j'ai même fait partie du conseil d'administration à un moment donné. Puis, alors, il y a eu des hauts et des bas, tu sais, mais je suis toujours très attaché par... j'ai connu les gens depuis très longtemps. Là, puis, j'assiste toujours à l'Assemblée générale à chaque année. Là.
Ouais, écoutez, ça a l'air drôle, mais c'était un étudiant en théologie qui posait une question qui disait « Où sont les distants de l'Église? »
Les distants?
Les distants. Ça veut dire que les gens, on s'apercevait de plus en plus dans les années 70 là, que les gens fréquentaient de moins l'Église. Puis souvent, l'Église, c'était le lieu de rassemblement, puis c'était le lieu de convivialité, tout ça. Donc, les gens étaient de moins en moins là. Alors, où sont-ils, ces gens-là? Donc, à la paroisse Saint-Denis, dans le quartier, il a décidé de créer un petit groupe qui a réfléchi là-dessus puis qui s'est posé la question de comment faire pour réunir ces gens-là qui, dans le fond, n'ont plus de lieu d'appartenance. Et c'est comme ça qu'est née la Maison d'Aurore. Et pourquoi le nom Aurore? Bien, dans le fond, quand ils faisaient leur réunion pour réfléchir un peu, ils allaient chez Aurore Saint-Laurent. Et quand ils allaient à la réunion, ils disaient « On s'en va chez Aurore, on s'en va chez Aurore. » Puis quand ça a été le temps de trouver le nom, bien, ils ont appelé ça la Maison d'Aurore.
Alors, à la débrouille, il y a des activités régulières, comme le tricot, l'activité physique, des cours d'informatique. Il y a aussi des activités intergénérationnelles avec les jeunes de secondaire de l'école Jalmance. Et puis, les activités intergénérationnelles, c'est souvent dans le jeu, dans le plaisir, autour de la bouffe. Puis l'idée, c'est vraiment que les jeunes et les aînés se rencontrent puis qu'ils créent des liens entre eux.
Là, c'est sûr qu'on est en septembre, donc le jardin il est un peu plus démantelé. On commence à... Donc, c'est un jardin en bac. C'est un jardin que ça fait quatre ans, en fait, qu'on fait. Il y a quatre ans, on avait 20 bacs. C'est un jardin expérimental. Ça n'a pas nourri beaucoup de personnes, on s'entend. On était rendu à 130 bacs cette année. Donc là, on parle vraiment d'une production qui est un peu plus massive. C'est un jardin en bac, donc qui n'est pas permanent, donc qui se défait là, à chaque automne. Mais c'est de toute beauté, en fait. Il y a des variétés de tomates nouvelles qui ont été plantées cette année, qui fait des tomates mauves. Il y a de tout. Des aubergines, il y avait des pois mange-tout. On met beaucoup de fleurs aussi pour attirer les pollinisateurs. Puis c'est surtout, en fait, le jardin, c'est sûr qu'il y a de la bouffe, mais c'est surtout un prétexte pour mettre les gens ensemble. Les gens de différents milieux, de différentes classes sociales, mal de différents portefeuilles, niveaux d'éducation qui viennent ensemble faire un projet de jardin collectif. Le travail est fait ensemble. Okay. Les récoltes sont partagées aussi à travers les participants. Donc, on en a à peu près une vingtaine cette année. Puis c'est vraiment une occasion d'apprendre puis de parfaire tes connaissances en agriculture.
Pourquoi pas, hein? Une façon de sauver des sous, puis de rencontrer d'autres personnes. C'est important de briser l'isolement. On arrive à un certain âge, à un moment donné, on se sent plus tout seul, ou bien on n'a pas de conjoint, nos enfants sont grands, sont partis. On a besoin de rencontrer des gens, puis d'aller parler. Ben moi, je trouve que c'est extraordinaire comme milieu.
Ici, on est 7 personnes à temps plein, puis on a un contractuel. Bon an, mal an, là, on parle de 100 personnes, 110 personnes. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la Maison d'horreur, les bénévoles. Sans eux, là, il n'y a rien qui peut se passer. C'est vraiment comme, par exemple, au Château d'horreur, où on fait de l'aide aux devoirs et leçons avec un bénévole attitré à un enfant. Là, on en a une quarantaine déjà juste dans ce réseau-là. Mais c'est des gens qui viennent faire à manger une fois par mois pour qu'il y ait une grande tablée, un gros repas communautaire qui se déroule. Donc, ces gens-là viennent faire à manger aussi puis cuisiner ensemble. C'est des gens qui viennent sur une base régulière. C'est des gens qui viennent donner un coup de main une fois de temps en temps. On a des jeunes aujourd'hui, par exemple, la Maison des jeunes du Plateau qui viennent nous aider. Donc, c'est vraiment une petite communauté. On dirait que quand les gens nous découvrent aussi, ont envie de venir s'impliquer ici, ont envie de venir donner.
Bien, souvent, les personnes âgées ont plus de temps. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus pratique. Puis c'est du monde qui ont fini leur étude de manière générale depuis quand même un moment. Fait qu'ils peuvent, ils sont en mesure d'aider des gens plus jeunes à l'heure, puis ils ont probablement plus de temps pour le faire, fait que c'est une bonne idée. Puis aussi, beaucoup de personnes âgées ont beaucoup plus de temps que de temps occupé. Fait que c'est probablement bénéfique des deux bords.
Je suis très heureux, puis ils sont tellement sympathiques, tellement débrouillards, tellement ouverts. Puis ça a évolué beaucoup, beaucoup dans le sens de l'engagement social, de l'amélioration du quartier, de retrouver toutes les couches d'âge à Port-Sol. C'est des personnes âgées, les enfants, l'école, la circulation, l'écologie. Je lisais aujourd'hui le Main à Main, qui est leur journal, qui est publié plusieurs fois par année. Et c'est à lire d'un couvert à l'autre.
Ici, on est dans ce qu'on appelle la ruche, c'est-à-dire la cuisine. C'est ici que se passent nos repas communautaires, nos projections de films. Bientôt, on va avoir un repas gastronomique, en fait, au profit de la Maison d'horreur. C'est la quatrième année que ça va avoir lieu. C'est vraiment notre endroit le plus central, finalement. Et c'est aussi ici que se passe l'aide aux devoirs, le plus souvent. Les cuisines collectives sont ici.
Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au HLM de Lanaudière, juste à côté. Des rencontres à chaque semaine où l'idée, c'est vraiment de créer un réseau d'entraide entre des aînés qui vivent dans le quartier. Donc, il y a des résidents du HLM qui participent, puis il y a aussi des gens qui vivent à proximité. Encore une fois, la bouffe, c'est toujours... il y a des repas communautaires, mais il y a aussi des conférences, puis aider les gens à mieux communiquer ou apprendre des trucs pour leur santé.
Oui, parce que les personnes âgées aussi se sentent seules des fois, fait que c'est une façon de se faire des amis puis de créer des liens.
D'ailleurs, une étude rapporte que les personnes âgées, leurs amis, qui sont très chers, ils les considèrent comme des membres de leur famille.
Je dirais qu'il y a toujours ce besoin de briser la solitude des gens. Il y a toujours des besoins de mettre le monde ensemble. Ça restera toujours parce qu'on est dans un monde individualiste, tout ça. On est aussi dans les défis d'un quartier où les familles moins favorisées peuvent... Est-ce qu'il y a encore leur place dans ce quartier-là? Est-ce qu'il y a encore des logements abordables pour eux autres? Donc, ces défis-là sont encore là, hein? Puis ce qui s'ajoute, je dirais, bien, c'est ça. Comment on prend soin de notre terre, l'environnement, développer des moyens faire manger les gens? C'est ça. La lutte à la pauvreté, ça restera toujours comme un défi de notre temps d'aujourd'hui.
Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a un peu tassé ces personnes-là. On les a pris, on les a mis de côté en se disant, ils travaillent plus, sont plus ou moins utiles. J'imagine qu'ici, c'est un endroit où eux peuvent se sentir utiles. Parce que moi, je pense jusqu'à notre dernier souffle, on a besoin de se sentir utile, tu sais, que ce soit en cuisine ou auprès des enfants. Auprès des jeunes mères, donner des coups de main, parler de nos expériences. Dans certaines sociétés, on repose sur eux, c'est important, on valorise leurs connaissances. Pas ici. C'est triste un peu.
Ben moi, j'espère qu'on va s'aimer encore, puis qu'on va continuer de tisser le social. Je pense que c'est ça qu'il faut continuer, puis c'est ça qui est important, de dire que l'humain est important, puis on y laisse de la place. Puis ici, à Maison d'Or, on s'est battu pour garder un accueil, justement, comme ça, chaleureux, ouvert, où il y a une personne encore qui te répond quand tu viens.
C'était un reportage de Philippe Laramé et de Marie-Claude Tardy. Propos recueillis le 10 septembre 2015 à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Pour en savoir plus sur la Maison Aurore, visitez maisonaurore.org. Jacques Languérand a animé durant 43 ans son émission « Par quatre chemins » diffusée sur les ondes de Radio-Canada jusqu'en février 2014.
Ça existait, la radio, il y a 43 ans?
Come on, Guillaume, 43 ans, c'est quand même pas si long, là.
Ben là, Philippe, dans les derniers 43 ans, il s'est quand même passé des choses. L'élection de Jean Lesage et Maître chez nous, deux référendums, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre, la crise de 2009...
Ton point là-dessus?
Ben, 43 ans, c'est long en titi!
Justement, c'est pour ça que Hope veut rendre hommage à un grand de la radio qui nous a inspirés par son émission qui traitait d'un peu de tous les sujets, allant de la spiritualité à l'écologie en passant par le sociétaire. Toujours dans le but d'apprendre et de réfléchir avec son auditoire.
Monsieur Languérand, mes hommages. Vous êtes un des plus grands transmetteurs de savoir que nous ayons connus.
Pour ceux qui veulent en connaître plus, rendez-vous sur le site des Repères de Languérand sur repères.tv.
J'ai composé un hommage à une grande poète qui vient de disparaître prématurément à 55 ans. Elle s'appelle Hélène Monette. Si vous pouvez trouver ses écrits, c'était une poète intemporelle, inoubliable. Lisez-la, vous comprendrez. Alors j'écris ça, un petit hommage tout simple. Ah, l'Hélène, sourire ficelle, regard vif mais si triste sur la pitoyable race humaine. La ville en cube abrupte, l'asphyxie guettant les si sensibles comme toi, éponge à impulsion la plupart mesquine face à toi, la si généreuse. Même cet hommage t'incommoderait. Pas de photo, s'il te plaît, disais-tu. Non, même plus de poème désormais, dit-elle. Mon essentiel m'appelle. Tout est écrit déjà. Lisez, prenez soin des rares beautés qui restent et de nos enfants chéris. Salut Hélène.
C'était un texte de Annie Schneider, du nom de Hommage à une grande poète.
Fête du mort, y'avait juste moi et pas triste. J'connais ça le mort, j'savais que c'était un vieux Christ. À fête du mort, tout le monde braillait. Autour du corps, les fleurs sentaient fort. À fête du mort, il y avait juste moi et pas triste.
Tout le monde a parlé tout le temps qu'on tue dans son dos.
Il y avait du monde comme dans une vraie première. Plutôt une vraie dernière. Y'avait ces blondes qui se tenaient vers l'arrière. Tout en avant, y'avait sa femme pis son amant. Quel mélodrame! À fête du mort, y'avait juste moi et pas triste. Je me dis face à ce désespoir que c'est à force de broyer du noir qu'on en vient à devenir raciste. Ceux-là défilaient en parade, on aurait dit une mascarade pour faire blouer les journalistes. À fête du mort, il y avait des notables et nous lui décernons pour son œuvre. J'entends encore le vieux les traiter de cartables. Lui qui se crissa du protocole, lui qui en avait contre les faux cols. À fête du mort, y'avait juste moi et Patrice. Curé prud'homme vint saluer son âme. C'est à son vieux chum et qui y jouait aux dames. Il savait que le vieux, tout comme lui, l'emportera pas au paradis. À fête du monde, il y avait juste moins Patrice. Qui rêvait comme un vieux sage d'être enterré dans son garage où il y avait eu de beaux moments. Sans galipette et sans éclat, sans trompette et puis sans flafla, on lui refuse à ses instants. À fête du mort, il y avait bien des vedettes. Des têtes de bord, des poudrées, des tapettes. À fête du mort, pas de robineux, juste des gens bien caillissent le vieux. À fête du mort, y'avait juste moi et Patrice. À fête du mort, y'avait le mort qui était trop. Ça parla fort d'argent, de char, pis de chaud. Si le mort avait pu se réveiller, il aurait tombé sur le nez. À fête du mort, y'avait juste moi et Patrice. Un cadavre est plus important qu'un homme en vie, c'est évident. On peut pas en faire ce qu'on veut. Je l'aurais bien pris par le bras pour l'amener boire au Scala. Il se serait sans doute senti mieux. À fête du mort, il y avait un buffet froid. Champagne, caviar, crémage sur le bout des doigts. Mangeur de pizza, buveur de bière, de championnat. À fête du mort, y'avait juste moi et Patrice. Trois heures plus tard, quand tout le monde fut bien gris, je me mit encore à semer la zizinie. Je pognais le cul des grosses matins du Spanish Fly dans crème de menthe. À fête du mort, y'avait juste moi et pas triste. Les pénis, les fesses, les vagins s'excitèrent en un tour de main. Ce fut un bordel merveilleux. J'ai amené la veuve à sauvette, tiré une pipe dans les toilettes. À la mémoire, à mémoire, à la santé du vieux. À fête du mort, y'avait juste moi et pas triste.
C'est ce qui conclut le 16e épisode de Aube.
Toutes nos émissions sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour nous offrir vos paroles de sagesse et nous partager votre expérience, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, Guillaume Lambe, Aurélie Subercico, Solène Marchand, Jean-Baptiste Gardarin, Annie Schneider et Elisabeth Daigle.
T'as oublié quelqu'un, là? Plume à traverse, pour ton extraordinaire carrière, franchement. Je, et c'est Philippe Laramé qui parle, t'écoute depuis que j'ai l'âge d'écouter de la musique et je te dédie cette émission de Aube, puisque directement, tu es une très grande source d'inspiration.
À la co-réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.